Nora Bussini était à Strasbourg ce mardi 28 octobre 2025 sur l'invitation du CRIF Alsace et de la LICRA du Bas-Rhin. Nora Bussini est journaliste d'investigation. Elle a mené une enquête au long cours en infiltrant les rangs de l'ultra-gauche. Cette enquête a donné lieu à un livre, « Les nouveaux antisémites, enquête d'une infiltrée dans les rangs de l'ultra-gauche ». C'est aux éditions Albin Michel. Nous avons enregistré cette conférence strasbourgeoise et nous vous proposons un condensé de ce qui nous semblait approprié pour bien comprendre l'objet de son enquête. Et pour commencer, elle explique comment elle a infiltré les milieux d'ultra-gauche et sa réaction d'après 7 octobre.
Dans le cadre de mon travail de journaliste d'investigation, j'ai plusieurs fausses identités numériques crédibles et alimentées, donc des faux comptes sur les réseaux sociaux. Et donc le 7 octobre, j'ai ce réflexe. Je réactive un de mes faux comptes, un faux compte que j'avais utilisé pour cette précédente enquête, afin de voir comment réagissent tous ces collectifs féministes et LGBT que j'avais pu côtoyer pendant près de 2 ans. Et en fait, je suis abasourdie. Abasourdie puisque certains optent pour le silence, d'autres pour la négation. Et alors pire, il y avait des figures féministes et LGBT que je mentionne évidemment dans le livre, qui sabrent le champagne et qui se réjouissent en disant à quel point c'est magnifique ce à quoi ils sont en train d'assister ce 7 octobre, parce que enfin le colonisé se rebelle contre le colon. Et donc là, je me dis, c'est pas possible en fait. Cet éléphant qui est au milieu de la pièce dans ses luttes militantes, je le raconte dans le précédent ouvrage, notamment dans un événement qui a fait beaucoup parler à l'époque quand le livre est sorti, qui s'appelle la Pride radicale, où j'étais chargée de faire respecter la non-mixité, c'est-à-dire de trier les gens selon la couleur de peau pour séparer les personnes blanches des personnes non blanches. Déjà à cette époque-là, on était avant 7 octobre, on était en 2022, l'organisation se demandait comment on allait trier les juifs. Et donc moi, je me suis dit, il va falloir non seulement que je réactive des faux comptes, mais que j'en crée immédiatement, que je crédibilise les autres et que je repère très vite des figures montantes. Et c'est pour ça que très très vite, je me suis tournée vers un collectif, Urgence Palestine, et une figure, Rima Hassan.
Elle revient sur le niveau de haine en ligne qu'a suscité la sortie de son livre.
Je ne m'attendais pas à un tel niveau de haine, à un tel cyberharcèlement massif, des menaces à n'en plus finir, qui maintenant font que lorsque je m'exprime en public, je suis contrainte d'avoir une protection, comme aujourd'hui à Strasbourg, demain à Marseille. Et en fait, je me suis rendu compte que la haine qui les anime est une haine, parce que je lisais les messages, on me traite beaucoup de sale traîtresse. Sale traîtresse, pourquoi ? Parce que je suis franco-marocaine, j'ai une partie de ma famille qui est de confession musulmane, et pour eux, en fait, je devrais obligatoirement être engagée pour la cause pro-palestinienne. Après, on peut tout à fait être et pro-israélien et pro-palestinien. Donc il y a vraiment cette haine qui se cristallise, une haine raciste, une haine sexiste, parce qu'on me traite de Sophia Aram, Aram de service, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, évidemment, d'Hassan Chelgoumi, que nous connaissons, en tout cas que je connais bien aussi. Donc vraiment, il y a ce côté, on est des Arabes traîtres à notre sang, finalement, et c'est assez terrible.
Vous pouvez nous dire quels sont ces mouvements d'ultra-gauche ?
L'ultra-gauche, ce sont différents mouvements militants. On retrouve tout aussi bien des écolos radicaux, des mouvements antifascistes animés par une colère, un rejet contre les forces de l'ordre. On va retrouver aussi ce qu'on appelle les Black Blocs, des militants également décoloniaux. Bref, une sorte de galaxie très fragmentée de militants qui appartiennent à cette ultra-gauche du spectre politique. Ce qu'ils ont en commun déjà, c'est un rejet des institutions démocratiques, un rejet aussi de l'État, pas du gouvernement en tant que tel, parce qu'on a tout à fait le droit de critiquer le gouvernement, mais de l'État en lui-même. Et surtout, ce sont des mouvements qui étaient extrêmement fragmentés. Et j'étais absolument persuadée avant le 7 octobre que ces mouvements qui rêvent tous, dès qu'on fait des manifestations avec eux, d'une convergence des luttes, c'est le slogan qui revient énormément, j'étais persuadée que cette convergence des luttes, elle se ferait autour d'un ennemi commun, parce que la thèse de l'ennemi commun, elle est importante, c'est George Orwell qui l'explique très bien dans 1984, comment l'ennemi commun parvient à fédérer les luttes. Mais en l'occurrence, j'étais persuadée que ça se ferait autour de la haine du flic. Mais cette haine, elle ne cristallise pas assez longtemps. La haine du juif, ou alors plutôt, vont vous dire, la haine du sioniste et de ses complices, effectivement, elle cristallise sur le long terme et elle a permis, moi j'ai pu le constater de mes propres yeux, de faire s'associer des militants LGBT, des militantes féministes avec des figures islamistes, si je peux le dire, qui ont un discours notamment frériste, donc des mouvements totalement antinomiques qui arrivent à s'allier. Je me suis même retrouvée dans des salles municipales avec des écolos radicaux comme les Soulèvements de la Terre, qui étaient unis avec des féministes féministes décoloniales, tous autour de Elia Zimzalen, cette figure accusée de, je vais faire attention toujours aux emplois, accusée de liens avec l'islamisme et qui avait appelé à faire un intifada de Paris à Gaza.
Les campus universitaires, lieu de convergence.
Déjà pour les besoins de cet ouvrage, j'ai recueilli plus d'une centaine de témoignages d'enfants, d'étudiants, professeurs, d'élus locaux. Et de l'autre côté, effectivement, comme vous le disiez, j'étais sous couverture. Donc je passais beaucoup de temps dans des manifestations, mais aussi des groupes de parole, des actions. Je suis allée dans des squats. Voilà, j'ai été donc dans plusieurs campus en France, notamment à Strasbourg. Mais je suis allée aussi en Belgique, sur le campus de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, et aussi sur le campus de Columbia, aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que je voulais montrer comment il y avait une connexion entre tous ces campus à travers des collectifs. Des collectifs qui, pour certains, étaient liés factuellement aux frères musulmans. C'est le cas de Students for Justice in Palestine, un collectif qui a agi notamment à Sciences Po, Paris en l'occurrence, et qui agissait exactement pareil à Columbia et qui a été fondé par Atem Bazian, un homme qui ne se cache pas de soutenir la confrérie des frères musulmans américains et qui ne se cache pas non plus d'avoir financé le Hamas à l'époque. Dès le 7 octobre, Students for Justice in Palestine, par exemple, publie ce qu'ils appellent une boîte à outils en ligne à destination de tous les étudiants, qui permet justement pour tous ces étudiants qui vont douter, qui vont voir ce qui se passe, qui peuvent être même atterrés par les images, de ne surtout pas se laisser berner et de comprendre à quel point l'action du Hamas serait légitime justement et pourquoi il faut soutenir le Hamas. Et on les retrouve à Sciences Po puisque c'est eux qui ont organisé tous ces moments de, on peut dire, de cette intifada presque qu'il y avait à Sciences Po. C'est eux qui ont fait venir Rima Hassan notamment à Sciences Po Paris, qui a entraîné cette explosion sur le campus qui n'avait pas encore à l'époque de direction. Et on a aussi d'autres collectifs, des collectifs qui sont liés à une organisation terroriste qui a participé aux attaques du 7 octobre, qui s'appelle le Front Populaire de Libération de la Palestine. Et donc ce collectif-là s'appelle Samidoun. Samidoun est aussi à Strasbourg, j'en parle un peu dans le livre, mais il n'est pas qu'à Strasbourg, j'ai beaucoup travaillé sur Samidoun, la façade avérée du Front Populaire de Libération de la Palestine. Et donc eux, dès le 7 octobre, ils ont mis en place énormément de mouvements de mobilisation et leur but, c'est très clair, ils le disent, pour avoir fait beaucoup de réunions avec eux, pour être encore sur leur book Telegram, c'est vraiment de mettre en place et de radicaliser les étudiants de plein de campus pour qu'après, eux agissent, se mobilisent massivement pour soutenir la résistance armée contre d'ailleurs ce qu'ils appellent l'autorité palestinienne traîtresse. C'est le mot qu'ils emploient. C'est une instrumentalisation de cette génération Z et c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans ce livre et par le biais des réseaux sociaux et aussi par le biais de l'université, le biais des études supérieures, puisque cette génération Z, on le sait, elle sera primo-votante en 2026 pour des municipales, en tout cas pour sa majorité, et en 2027 pour des présidentielles. Et ça, la question, l'instrumentalisation de cette empathie légitime pour la question palestinienne, elle est tout à fait utile à ces collectifs-là. Il y a des personnalités politiques qui peut-être font ça, on s'en doute, par des questions électoralistes et clientélistes, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont peut-être manipulés aussi, peut-être les idiots utiles. En tout cas, quand on travaille beaucoup sur des questions de République islamique d'Iran et tout est connecté, comme je le montre dans le livre, on se rappelle très bien l'histoire de l'Iran et ce qui s'est passé quand l'extrême-gauche s'est alliée aux islamistes, en l'occurrence.
Strasbourg tient une part importante dans le livre et de par sa violence lors des manifestations.
À chaque fois qu'on me demande quel était votre pire moment, à chaque fois je suis obligée de dire que c'était vraiment cette manif à Strasbourg. C'est parce qu'il y a un contexte aussi. Il faut savoir que pour les besoins de cette enquête, quand on part en immersion, on se doit se fixer des limites. Moi, j'avais deux limites. C'était que je ne commettrai pas à titre personnel d'actes violents envers des personnes et je ne ferai rien qui puisse être violent ou agressif envers des enfants. On peut vraiment se rendre compte à quel point l'enjeu des enfants est important au sein des luttes, notamment Samidoun. Je raconte dans le livre, c'est pour vous mettre un petit teasing avant de vous expliquer ce qui se passe à Strasbourg, mais comment il y a vraiment une manipulation des étudiants, des jeunes et des enfants. Je raconte comment dans des salles municipales, ils organisent des ateliers de dessin pour que les enfants puissent envoyer des lettres aux martyrs de la résistance armée en Palestine, par exemple. Et donc, en l'occurrence, à Strasbourg, je participe à cette manifestation en février. C'était une manifestation manifestations qui étaient hebdomadaires, puisque à l'époque, l'idée était de faire pression sur la maire de votre ville, Jeanne Barzéguian, afin qu'elle mette fin au jumelage historique entre la ville de Ramat Gan en Israël et Strasbourg. J'avais rejoint un petit peu des boucles Telegram locales qui expliquaient qu'ils faisaient cette énième manifestation. On était dans un contexte déjà un peu compliqué où on savait que les enfants Bibas avaient été tués et on attendait la restitution des corps. Donc vraiment, c'était psychologiquement assez dur. Et donc, en l'occurrence, je vais à cette manifestation, je me retrouve sur la place. Et déjà là, j'étais assez estomaquée parce que je vois un camion flambant neuf, floqué, soutient la résistance palestinienne. Alors déjà, je me dis, on est bien accueillis, disons qu'ils ont du matériel qu'effectivement, je n'avais pas vu ailleurs, parce que j'étais déjà allée à Toulouse, à Bordeaux, dans d'autres villes, et c'est la première fois que je voyais un tel matériel. Et alors là, il y a un vrai déchaînement, j'ai tout enregistré. C'est vraiment des hurlements contre la maire de la ville, en disant que c'était un jumelage de la honte, que ensuite c'était évidemment gloire à la résistance armée, inlassablement, soutien à la résistance sous toutes ses formes, que Nice fasciste, les habituels slogans finalement. C'était très violent, il y avait, je dirais, une soixantaine de personnes à peu près. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a avancé et on allait se mettre devant le McDonald's de votre ville, qui est à Place Kléber, si je me trompe pas. Pourquoi on est allé devant ce McDonald's? Je pense que vous êtes au courant, parce que de toute manière, c'est à Strasbourg que se sont tenues cet été vos universités d'été pour Europe Écologie Les Verts, où vous avez, Europe Écologie Les Verts a très généreusement et très gentiment reçu le mouvement Boycott des investissements sanctions, BDS, qui est pro-Hamas, il faut le dire très clairement. Je fais attention, en tout cas, au mot que j'emploie. C'est un collectif qui appelle à boycotter des marques, des enseignes, mais aussi des personnalités liées de près ou de très, 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 très loin avec Israël. Et donc, en l'occurrence, McDonald's fait partie de la liste de boycott des investissements sanctions. Donc, le collectif s'est mis à hurler. Donc, ils avaient vraiment des mégaphones. Ils étaient bien équipés. Ils étaient avec le camion qui klaxonne. Ils se sont mis à hurler sur les familles qui étaient présentes. Donc, c'était vraiment des familles avec des enfants en train de manger leur Happy Meal. Et en fait, ils leur hurlaient des choses horribles en les traitant de sionistes, de fascistes. Ils insultaient les gens qui les rejoignaient pas et qui les regardaient autour. Et en fait, là où ça m'a particulièrement choquée, c'est que les familles étaient effarées, se retranchaient dans le McDonald's. Les policiers ont commencé à arriver. Je regardais les vidéos, parce que j'ai quand même filmé aussi. Je n'ai juste pas le droit de diffuser. C'était commencé à se mettre sous forme de protection entre les familles et les personnes qui mangeaient et nous, les manifestants. Et en fait, ils se sont mis à scander en boucle aux enfants qui mangeaient leur Happy Meal, que vous mangez la chair des enfants palestiniens. Et en fait, de voir des enfants terrorisés en train de manger leur Happy Meal, à qui on dit qu'ils sont en train de manger de la chair d'autres enfants, en fait, ça a été trop pour moi. Et comme je l'explique, c'était dans un contexte où on venait d'apprendre ce qui était arrivé aux enfants Bibas. Et je discute avec les policiers qui me disent oh, c'est ça toutes les semaines, on est habitué, ça fait des mois, parce que je leur ai dit c'est quand même de l'apologie du terrorisme, allègrement scandé dans les rues. Ils m'ont dit on le sait. On sait très bien et on est habitué. Et en fait, je n'ai pas pu finir cette manifestation. C'est la seule que je n'ai pas pu terminer. Voilà.
Dans le cadre de l'enquête parlementaire entre les partis et les islamistes, Nora Bussigny a été auditionnée.
Effectivement, j'ai été auditionnée par la commission d'enquête qui vient établir des liens entre des partis politiques et l'islamisme. Mon audition a fait beaucoup, beaucoup réagir. Après, on m'a demandé de ne pas donner les noms. Donc, c'était compliqué parce que je n'ai pas pu donner les noms des députés. Non pas que j'allais venir en disant lui est frériste, lui est islamiste, pas du tout. C'était plus donner des faits en disant, par exemple, Thomas Porte était dans telle salle municipale à telle date avec Sami Doun, qui est une organisation reconnue comme terroriste. C'est des faits. Raphaël Arnaud a reçu le collectif contre l'islamophobie en Europe, ex-CCIF, je ne sais pas si vous vous rappelez, dissous dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty à l'Assemblée nationale. C'est des faits, en l'occurrence. Ils m'ont demandé de ne pas donner les noms. Mais en tout cas, ça a fait réagir plus haut.
Antisionisme versus antisémitisme. Qu'est-ce qui motive les milieux d'ultra-gauche ?
Il y a quelques années, enfin il y a plusieurs années même, je pense que quand on pouvait se dire antisioniste, je pouvais l'entendre tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le faux-nez de l'antisémitisme. Déjà parce qu'on retrouve à l'ultra-gauche les tropes antisémites basiques de l'ultra-droite. Vraiment, moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Je me suis fait former, notamment, j'ai fait une formation avec Urgence Palestine pour manipuler des pages Wikipédia, parce qu'on sait que Wikipédia, c'est un des sites les plus consultés. Et en l'occurrence, on a des tropes antisémites basiques dans le sens où ils ne vont plus vous dire juifs, mais ils vont vous dire sionistes. Par exemple, ils vont vous dire les sionistes contrôlent les médias, les sionistes contrôlent le gouvernement, ils ont de l'argent, c'est eux qui décident, on sait très bien. Et après, de toute manière, ils vont vous dire c'est le complot judéo-maçonnique. Alors, ils ne disent pas sionisto-maçonnique en l'occurrence. Oui, l'antisémitisme est là, ils vont vous dire que non, pas du tout, on peut tout à fait être juif et antisioniste. Et ils me prennent par exemple le cas de CEDEC, un collectif qui sont les enfants de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Je pense que vous les connaissez. Certains de leurs membres vont être jugés l'année prochaine pour apologie du terrorisme, notamment pour un communiqué de presse sorti le 7 octobre, que je vous invite à lire parce qu'il est abominable. Surtout, l'antisémitisme, il est comment ? Il est dans le fait qu'on vient demander, et c'est ce dont témoignent beaucoup de militants que j'ai interviewés, notamment beaucoup de militants LGBT et féministes, juifs, qui racontent comment depuis le 7 octobre, ils ont été contraints de montrer patte blanche, c'est-à-dire de s'engager, de dire clairement qu'ils étaient contre l'existence même de l'État d'Israël, qu'ils n'avaient pas de famille en Israël ou alors qu'ils n'y iraient plus, et qu'ils soutenaient évidemment la résistance palestinienne sous toutes ses formes. Donc en fait, déjà, dès qu'on demande à un juif, parce qu'il est juif, des comptes sur un gouvernement israélien, sur des décisions d'un gouvernement israélien, ça s'appelle de l'antisémitisme. En fait, il y a tellement de faits qui montrent que c'est de l'antisémitisme. Je prends juste à Sciences Po l'exemple. Peu après la venue de Rima Hassan, on savait que tout allait s'embraser de toute manière, il y a une étudiante, parce qu'elle est juive et qu'elle était identifiée comme étant membre d'un collectif juif, a voulu entrer dans un amphi qui était mobilisé par les étudiants. Ils l'ont reconnue, ils ont dit « c'est une sioniste, elle ne peut pas rentrer ». Ils l'ont reconnue en disant que c'était une sioniste, mais parce qu'elle est quoi ? Elle est tout simplement juive, en l'occurrence, c'était la seule chose. Et on le voit, il y a énormément d'exemples, l'omniprésence des croix gammées en permanence dessinées, soi-disant sous couvert d'humour. À Strasbourg, quand j'ai recueilli des témoignages d'étudiants qui avaient attendu Rima Hassan alors qu'elle venait à Strasbourg pour pouvoir exiger de mener sa conférence, ils s'étaient filmés avec des drapeaux israéliens, de manière assez pacifique, hein. Mais parce qu'ils disaient justement, il y a tout le temps des drapeaux palestiniens, bah nous on veut sortir des drapeaux israéliens, voilà, soit. Et elle les a filmés et elle les a diffusés sur les réseaux sociaux. Donc ils ont porté plainte parce qu'il y a une vraie mise en danger, ils ont été placés sous protection fonctionnelle. Et quand on lisait, moi je lisais le compte-rendu des plaintes, tous les commentaires antisémites sous le poste de Rima Hassan, et on leur disait par exemple en masse, Auschwitz n'est qu'à une heure d'ici. Ne pas me dire que c'est de l'antisionisme en l'occurrence.
Et pour terminer, l'auteur revient sur le parcours de Rima Hassan.
J'ai voulu consacrer un des derniers chapitres de mon livre à Rima Hassan parce que aujourd'hui, pour la génération Z, les deux personnalités qu'elles suivent le plus sur les réseaux sociaux, c'est Rima Hassan et Jordan Bardella. Ça vous montre à quel point... Et donc, en fait, Rima Hassan, je voulais montrer pourquoi, essayer de décortiquer comment c'est possible qu'en une story, donc un post éphémère publié sur Instagram, elle est capable de mobiliser 10 000 personnes place de la République pour l'accueillir quand elle revient de la flottille. Et donc, j'ai voulu tracer son parcours. Je suis allée à New York, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui l'ont côtoyée, qui l'ont connue pendant des années, pour comprendre comment elle est devenue cette personnalité politique. Rima Hassan avait donc un ex-fiancé juif. Donc ça, elle l'avait déjà dit, hein, c'est important. Moi, j'ai outé personne en l'occurrence. Et justement, c'est parce qu'il en avait assez d'être utilisé comme caution dans des articles dès qu'on lui reprochait de l'antisémitisme en disant bah, « j'ai eu un petit ami juif ». Ce qui est plutôt important de comprendre dans le parcours de Rima Hassan, c'est que donc elle navigue en arrivant en France entre sa famille, ses frères, etc., de confession musulmane, et elle cache la relation amoureuse qu'elle a avec ce jeune homme de confession juive et sa famille qui est juive mais très laïque. Peu pratiquante, elle est obsédée par le fait de pouvoir se rendre en Israël à tout prix. Elle dit que c'est pour pouvoir se ressourcer, je cite. Et en l'occurrence, elle tente à côté de rentrer en contact et elle entretient une relation épistolaire avec un homme qu'elle croit être un soldat de Tsahal. C'est important parce que quand on qualifie Tsahal d'armée, je cite, génocidaire, c'est fou de vouloir quand même entretenir à tout prix une relation jusqu'à même le rencontrer en Israël quand elle tente d'y aller pour pouvoir aller en Palestine. Je raconte dans le livre. Et surtout, on voit quand est-ce qu'elle se radicalise. Parce qu'avant, ceux qui l'ont connue disent qu'elle avait une fascination-répulsion pour Israël, qu'elle a toujours eue. Elle le dit, je serai une grande de ce monde ou une clocharde, c'est ce qu'elle explique. Et en fait, on voit qu'en 2014, quand elle part au Liban, elle change. Diamétralement. Là, son fiancé de l'époque constate qu'elle retweete à plusieurs reprises Alain Soral, qu'elle va retweeter une quenelle de Dieudonné. Et surtout, après, il voit vraiment la bascule dans le comportement. C'est là qu'elle utilise pour la première fois son égard des tropes antisémites assumées. Et voilà, après, je retrace son parcours jusqu'au moment où elle va exposer, ça en a encore quelques minutes. En 2021, elle, après qu'elle soit revenue en France, elle va participer à un événement majeur qui s'appelle les Napoléons à Val d'Isère, qui vient un petit peu propulser au niveau, devant des grands chefs d'entreprise, des politiques, etc., des figures, dans le cadre de l'ONG qu'elle a fondée. Et après, en 2022, elle rejoint le Collège citoyen, qui est censé former les élites progressistes et politiques de demain. On va poster un jour sur LinkedIn un post très, très, très radical à l'encontre d'Israël, puisqu'elle venait d'apprendre la mort d'une journaliste palestinienne. On ne savait pas encore qu'elle avait été exécutée par l'armée israélienne. Voilà. En fait, elle fait un post extrêmement virulent, et c'est là pour la première fois qu'elle a vraiment des réactions. Elle a des centaines et des centaines de likes, des centaines de commentaires, et elle voit que plus elle est radicale et virulente, plus ça réagit. Et ce qui est assez fou, et ce qui a été très dur au sein de sa promotion, c'est qu'en fait, il se rend compte qu'il y a énormément de commentaires antisémites sous la publication de Rima Hassan, des commentaires que moi j'ai pu consulter parce que des gens ont gardé des archives de cette publication, et qu'elle ne les modère pas, elle ne les supprime pas, elle ne les conteste pas, alors qu'elle pourrait tout à fait le faire. Et ça les pèse beaucoup, et ça va avec ce qu'elle est aujourd'hui. Plus elle est radicale, et elle sait très bien qu'elle navigue avec des antisémites assumés, avec pour certains même des islamistes, des membres d'organisations terroristes, mais elle s'en fiche finalement. Et c'est vraiment, on était là depuis le début. Et donc, peu avant le 7 octobre 2023, elle, sur son compte Twitter, où elle n'est pas énormément suivie, elle s'engage à plusieurs choses. C'est assez fou quand on relit ça, parce qu'elle a tout effacé évidemment. Elle s'engage à ne jamais essentialiser la société israélienne, ne jamais confondre la société israélienne avec le gouvernement israélien, et ne jamais, au grand jamais, appeler à la destruction de l'État d'Israël. Donc c'était de mémoire le 29 septembre. Et c'est beau parce que Raphaël, donc son ex-fiancé juif, lui dit dans un message que j'ai pu lire, « Tu avais tout pour devenir une femme de paix. » Et le 7 octobre arrive, elle a effacé évidemment tous les tweets qu'elle avait publiés ce jour-J, mais je les ai encore une fois récupérés. On voit comment elle est enragée parce que le Parti Europe Écologie Les Verts de votre mère, Jeanne Barzéguian, condamne les attaques du 7 octobre, parce que des figures comme François Ruffin condamnent ces attaques aussi, et ça la met énormément en colère. Et surtout, elle va propager une fake news très grave à l'encontre d'une femme, Shani Luke, effectivement. Donc en fait, dont on voyait les images, mais atroces, je pense que tous ceux qui les ont vues les ont en tête, de son corps, brinque-ballée à l'arrière de ce camion. Elle va publier le fait que c'est tout à fait faux, que Shani Luke est en sécurité, prise en charge dans un hôpital, et qu'il faut que sa mère et elle le savent très bien, qu'elles vont très bien, et qu'il faut arrêter d'accuser en gros le Hamas. Et donc en fait, elle va recevoir un déferlement de haine, un vrai cyberharcèlement en l'occurrence. Évidemment, tout cyberharcèlement est à condamner, hein. Mais là, en l'occurrence, il peut s'expliquer un petit peu, même s'il ne se justifie pas. Attention. Et en fait, c'est là que la première fois, elle est repérée par deux figures de la France insoumise, Thomas Porte et Manuel Bompard, qui vont publiquement lui apporter leur soutien. Et après, elle se rapproche d'eux et on connaît la suite.
C'était un extrait de la conférence de Nora Bussigny. Elle était à Strasbourg ce mardi 28 octobre 2025 sur l'invitation du CRIF Alsace et de la LICRA du Bas-Rhin. Nora Bussigny est journaliste d'investigation. Elle a mené une enquête au long cours en infiltrant les rangs de l'ultra-gauche. Cette enquête a donné lieu à un livre, « Les nouveaux antisémites, enquête d'une infiltrée dans les rangs de l'ultra-gauche ». C'est aux éditions Albin Michel.